Vous écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Bonjour, aujourd'hui on va recevoir une association vauclusienne d'apiculture, l'AVA, représentée par Antoine Assaf. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Donc vous représentez Monsieur Loïc Pagès qui est le président de cette association.
Tout à fait.
Aujourd'hui occupé parce que je crois qu'il y a une assemblée générale qui se déroule simultanément.
Exact.
Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de découvrir un petit peu le monde des abeilles, de l'apiculture, qui est une passion que développent de plus en plus de personnes. Et vous allez nous parler un petit peu de cette association, sa mission, comment ça fonctionne.
Alors le mieux c'est peut-être que je vous en dise un mot sur l'historique. Hein. L'association a été créée dans les années 90, 92 ou 93, je ne sais pas, je n'y étais pas à l'époque. Elle ne s'appelait pas AVA à l'époque, c'était la SAD. Et au départ, cette association s'était plus orientée sur la, comment dire, sur la gestion des problèmes sanitaires au niveau des abeilles et de la conduite des ruches. Des abeilles. Et puis, par la suite, du fait que ce sujet, c'est-à-dire la surveillance des problèmes sanitaires, était déjà géré par une autre association, par le GDSA, Groupement de Défense Sanitaire Apicole. Du coup, l'association s'est réorientée et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, l'AVA, c'est-à-dire l'association vauclusienne d'apiculture, qui se donne plus pour vocation d'aider tous les nouveaux,
L'idée, c'est de propager la passion de l'apiculture.
La passion de l'apiculture, elle est déjà, la passion existe. Hein. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui décident de se lancer un jour et on est là un petit peu pour ça, pour les aider, donc pour les soutenir dans leur projet.
Donc, vous leur apportez un soutien technique.
On leur apporte un soutien technique, non, mais on leur apprend, c'est-à-dire on assure une sorte de formation qui passe aussi bien par une formation théorique, hein, sous forme de cours assurés par un collectif, hein, on est un certain nombre à y participer, et aussi par un suivi pratique des travaux classiques, hein, qui se font au rucher, puisque l'on dispose d'un rucher école ici sur l'établissement donc, du lycée Louis Giraud.
Donc ce rucher école, comment ça se déroule? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des apiculteurs professionnels qui servent un peu de référence, si on peut dire, par rapport à certaines pratiques.
Oui, mais en fait, les professionnels qui collaborent avec l'association sont très peu nombreux. Il y en a deux ou trois simplement et ils ne sont pas systématiquement là. Constitué de d'apiculteurs amateurs, mais amateurs qui peuvent être chevronnés. Hein. Il y en a qui pratiquent l'apiculture depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui n'en font pas leur profession. Donc, ils restent apiculteurs amateurs. Et donc, dans la mesure où ils ont la compétence, ils peuvent transmettre cette compétence. Et
le principe de l'association.
C'est plutôt dans ce sens voilà, que ce...
Et combien d'adhérents?
Alors, les adhérents, ça tourne entre 100 et 120, 130 adhérents, en gros, avec un renouvellement chaque année d'une trentaine, en gros, hein, c'est voilà, pour une manière approximative, à peu près 30 nouveaux adhérents. Et c'est à destination de ces nouveaux, précisément, que se pratique enfin, la formation.
D'accord. Au niveau des activités, donc, j'ai vu sur le site internet qu'il y avait des cours, mais il y a aussi des réunions, des conférences. Enfin, il y a diverses formes pour transmettre.
Oui, dans la mesure où les cours, de toute façon, sont, se tiennent en gros sur 2 mois, les pratiques au rucher, on se voit une fois par mois, mais 3 ou 4 fois. Et donc, le reste de l'année, les réunions permettent précisément comment dire, de faire un, d'ouvrir, de s'ouvrir sur des thématiques avec intervention donc de conférenciers ou de compétences en tout.
Oui, comme sujet, on peut avoir quoi? L'essaimage
on
en
peut
deux
parler,
mots,
on peut
comment on
parler, on
peut...
peut parler de l'apithérapie. On a eu par exemple un médecin qui est venu
Oui.
lui-même nous parler d'apithérapie. Ça peut
C'est-à-dire,
être,
en
ça
deux
peut...
mots, l'apithérapie,
L'apithérapie, c'est les soins par les produits de la ruche, en particulier la propolis, le pollen, la gelée royale,
qui ont des
le
vertus,
miel,
effectivement.
etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc tous les produits de la ruche qui peuvent être, qui peuvent permettre donc de se prêter à une à des techniques de médecine alternative
Après,
ou
il y a des
très mais
choses,
très efficaces par contre.
certainement. Oui. Après, il y a des choses beaucoup plus qui nous rapprochent plus de la pratique de l'apiculture.
Alors de la pratique de l'apiculture, il y a les problèmes en particulier souvent un sujet qui revient souvent, c'est le varroa qui est un parasite redoutable mais il faut faire avec.
Qui a décimé pas mal de ruchers,
Qui a
effectivement.
décimé pas mal de ruchers. C'est un petit peu, je fais un parallèle, je fais le parallèle avec le phylloxéra de la vigne,
Oui.
hein, qui a décimé la vigne. Et il y a eu pareil, donc à la fin des années 80 en France, hein, à partir du varroa. Et maintenant, tous les ruchers sont concernés. Donc c'est un très, très gros problème. C'est la première cause de mortalité des colonies d'abeilles. Et donc c'est un sujet sur lequel on revient assez souvent. Savoir comment l'aborder, comment le maîtriser, comment le gérer. Parce que c'est un sujet, ce n'est pas le seul, évidemment. Et puis, il peut y avoir d'autres sujets, ça peut être le miel, voilà, la connaissance du miel, ces différentes variantes.
Un peu la sociologie aussi d'une ruche, la reine, comment ça fonctionne, tout ça, je
Oui,
pense que...
voilà, tout ça, en fait, tout s'y prête. Et même des problèmes plus liés à l'environnement, on a eu une fois. Comment dire, une intervenante qui est venue nous présenter les fleurs mellifères, donc ça peut être
Tout à
aussi
fait, oui.
à ce niveau, donc voilà.
Oui, c'est étroitement lié à l'environnement, la botanique.
Voilà, tout à fait.
J'ai vu qu'il y avait aussi l'essaimage.
L'essaimage, c'est plus un problème technique qui rentre dans le cadre de la formation. C'est un des sujets qui est très bien,
Mais qui éveille quand
comment
même une certaine curiosité, parce que bon,
dire. Et oui, bah, c'est un problème,
le problème,
effectivement.
c'est quoi? C'est qu'on en trouve de moins en moins des essaims?
Je ne sais pas comment répondre à votre question. C'est pas qu'on en trouve de moins en moins. Il y en a.
On m'a fait la remarque récemment que.
Il y en a, mais c'est un fait. C'est un fait. Enfin, moi-même, je suis, comment dire, je suis sollicité chaque année pour aller débarrasser, hein, les essaims qui s'installent chez des personnes qui ne sont pas
Ou c'est pas
concernées. Hein.
prévu.
Voilà, qui n'ont pas prévu ça dans leur environnement. Et de fait, depuis quelques années, il y en a de moins en moins. Hein. Il y a eu certaines années où c'était plus de 10 fois, entre 10 fois. Mon record, ça avait été 18 essaims la même année. Et là, de plus en plus, c'est 2 essaims, 3 essaims chaque
Ah ouais,
année.
d'accord.
C'est nettement moins.
Bien. Si vous voulez bien, on va faire une petite coupure musicale avant de reprendre sur d'autres thèmes.
Je vous suis.
Écoutez-nous sur le web, www.rtvfm.net.
You're my discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. And
but now it's hard to breathe.
L'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Donc nous retrouvons Antoine Assaf de l'AVA, Association Vauclusienne d'Apiculture. Donc nous avons déjà un petit peu échangé sur la genèse un peu de cette association. Aujourd'hui, on va un petit peu plus aborder la question des adhérents. Qui sont-ils, les adhérents donc, qui viennent à cette association?
Alors les adhérents viennent un peu de tous les milieux. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans toutes les tranches d'âge. Il y a des jeunes, des adultes, des seniors, il y a des hommes, il y a des femmes, et de tous les milieux sociaux et professionnels, il y a des étudiants, il y a des ouvriers, il y a des techniciens, il y a même des médecins. Voilà. Je ne vais pas détailler. Enfin,
l'idée, c'est d'avoir une activité loisir, en fait. C'est pas forcément
oui,
pour
dans
en
la
faire
mesure
un métier.
Où l'association est, comment dire, est, rassemble plutôt des amateurs que des professionnels. Donc, c'est effectivement une activité de loisir parallèle à l'activité professionnelle.
Mais on est considéré comme apiculteur quand même ou pas?
Ah, tout à fait.
Oui,
avec une ruche, vous êtes apiculteur. Il y a même au niveau de la réglementation, même si vous êtes en possession d'une seule ruche, elle doit être déclarée.
Absolument.
Ouais, pour des problèmes précisément de surveillance sanitaire, hein, puisque certaines maladies très, très contagieuses peuvent se propager très rapidement. D'accord. Voilà, donc oui, tous les apiculteurs, effectivement, sont déclarés, hein, même à petite échelle. Ce qui fait que... Ah oui, alors on revient à la question, qui sont les adhérents? Donc, je disais, ils viennent de tous les milieux. Par contre, ils ont tous en commun, et c'est ça un petit peu qui crée le lien, ils ont tous en commun la passion, d'une part, de l'abeille, qui est un insecte, un animal très intéressant, passionnant, et qui ont également... la passion de l'environnement, de la qualité de l'environnement. Et donc, ça constitue, disons, une bonne base, hein, de réunion. Voilà,
Alors, j'arrive dans votre association, j'ai l'intention d'adhérer, je voudrais avoir ma première ruche. Comment je vais faire?
Alors, comment vous allez
faire? Je trouve
ça
où d'abord?
ruche. Se lancer comme ça sans aucune formation, sans aucune connaissance, c'est un peu difficile. Le mieux, c'est précisément de se mettre en contact avec des gens qui ont un minimum de pratique et qui sont toujours de très bons conseils. Et en général, ils sont toujours volontaires pour vous donner un coup de main. Il y a les associations, il y a aussi beaucoup de littérature qui existe, hein, des livres, il y a aussi des disques, des DVD,
des DVD, voilà, des toutes sortes de supports, donc, effectivement.
Voilà, des supports
audiovisuels.
Audiovisuels. Et beaucoup de littérature. Hein. Et donc, qui peuvent aussi aider. Mais ce qui est probablement le plus efficace, c'est de suivre une formation comme on l'assure, hein, comme on le fait là, dans le cadre de l'association.
Et le plus motivant, donne, c'est aussi peut-être d'avoir...
Qui donne les bases théoriques et pratiques, puisque on suit toutes les principales activités pratiques sont menées à titre pédagogique sur le rucher école.
Là, il y a le rucher école, effectivement, qui offre cette possibilité de pratiquer sur des ruches si on n'en a pas.
Le rucher école sert à ça.
Et si un jour on décide d'avoir une ruche, est-ce qu'on a le droit d'avoir une ruche comme ça dans son jardin? Est-ce qu'il y a un danger?
Alors, il y a des
comment
règles.
Ça marche?
Il y a des règles. Évidemment, c'est plus facile en campagne qu'au milieu de la ville. Il y a des règles par rapport à la proximité, hein, de voisinage, etc. Les règles ne sont pas standards. Hein. Elles peuvent varier d'une commune à une autre. Voilà. Donc, il faut s'informer au niveau de la mairie, au niveau de la municipalité. Mais on peut installer des ruches un peu partout. Il y a une tendance maintenant qui va dans le sens du développement des ruchers dans les villes.
Oui, et on a entendu ça.
Les ruchers marchent très bien dans les villes, évidemment, moyennant certaines précautions précisément par rapport au voisinage et au risque.
Voilà. Et effectivement, il semblerait que les toits parisiens accueillent dorénavant des ruches.
En particulier, oui.
Et votre avis d'apiculteur par rapport à ça? Parce que
alors,
bon, les fleurs...
C'est un petit peu un paradoxe. C'est que les ruchers dans les villes se portent très, très, très bien et souvent mieux que dans les campagnes. Alors, l'explication, en fait, on la trouve relativement facilement. C'est que dans les campagnes... L'agriculture intensive est à la base de nombreux problèmes qui touchent l'apiculture.
L'utilisation
en
des pesticides.
En particulier, il y a deux problèmes principaux. C'est d'une part la monoculture et d'autre part l'utilisation des pesticides qui est à l'origine donc de la destruction.
Qui serait donc plus redoutable que la pollution urbaine alors?
Et oui.
Ah oui.
L'usage des pesticides, doublé aussi du fait que dans les grands sites de monoculture, la monoculture est aussi en soi un problème. Plus le désherbage avec l'élimination de toute la végétation dans sa
variété. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une réelle problématique.
Voilà, qui limite beaucoup les ressources disponibles pour les abeilles. Et si vous ajoutez à ça des produits toxiques du style de ceux dont on parle beaucoup en ce moment, les néonicotinoïdes, qui sont des neurotoxiques qui entraînent la mortalité de ruchers, mais des fois à 100%. Voilà.
Et au niveau du comtat venaissin, puisque c'est la région sur laquelle vous touchez le plus d'adhérents, il semblerait que les conditions ne soient pas trop mauvaises quand même.
J'ai pas compris.
Au niveau de la région, les conditions ne sont pas trop mauvaises en matière de...
Dans notre région, ça va encore, c'est encore pas trop mal dans la mesure où notre région ici est une des régions où l'orientation vers l'agriculture biologique, donc un peu moins nocive, moins toxique, hein, et c'est là que ça se développe pas mal. Donc on a un environnement qui est souvent plus favorable que dans d'autres régions où cette tendance est moins marquée.
Bon, bah, c'est une certaine chance, quoique il y a quand même certains parasites dont on parlera dans la dernière partie de notre émission. D'accord. Juste avant qu'on ne fasse une petite pause.
Très bien.
écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
Donc nous retrouvons Antoine Assaf de l'association vauclusienne d'apiculture, l'AVA, cette association donc qui est chargée de développer, de faire la promotion de l'activité apicole auprès des amateurs. Donc nous venions de dire que dans notre région, nous étions plutôt bien lotis en matière d'environnement pour nos abeilles. Néanmoins, il y a quand même toujours quelques fléaux qui demeurent par rapport à certains parasites.
En effet.
La varroise, c'est comme ça qu'on le dit.
Alors, effectivement, parmi les principaux dangers que connaissent les agriculteurs, il y a le premier d'entre eux, c'est le varroa. Le varroa est un parasite qui a été importé d'Asie à partir du moment où les échanges mondiaux ont commencé à se développer au cours du XXe siècle, dès le début du XXe siècle d'ailleurs. Et ce microparasite, qui est un micro-acarien, qui mesure 1 mm, en gros entre 1 et 2 mm de dimension, est redoutable parce qu'il se propage partout. Tous les ruchers en France sont atteints, pas seulement en France, dans tous les pays du monde, sur les 5 continents, tous les continents connaissent ce fléau. Et ce parasite est la première cause de mortalité des colonies d'abeilles.
Et comment se comporte-t-il là? Il absorbe
Alors le varroa va s'implanter dans le couvain, principalement dans le couvain, mais il s'attaque
c'est
aussi
les alvéoles,
aux adultes.
Le couvain.
Dans le couvain, c'est là où il y a le développement des larves d'abeilles. Issus de la pontonne de la reine. Et plusieurs varroas vont se mettre à pomper la lymphe, c'est-à-dire le sang des abeilles ou des larves d'abeilles. Donc ça les affaiblit considérablement. Et encore plus grave, le varroa communique plusieurs virus extrêmement nocifs, même mortels. Ce qui fait que les colonies d'abeilles, qui connaissent toutes des problèmes de liés à ce parasite, doivent obligatoirement être traitées pour gérer le problème. Sinon, la colonie est condamnée à mourir. Elle a au maximum 2 ans d'espérance de vie, pas plus. Mais en général, c'est même dans l'année qu'elle...
Voilà. Mais on peut traiter, on peut prévenir, on peut faire...
Alors, il y a des traitements. Il y a des traitements, d'une part, avec des produits de médecine vétérinaire qui sont très efficaces, qu'il faut renouveler chaque année à l'automne, en dehors de la période de miellée. Mais il y a aussi des produits naturels qui sont d'ailleurs les seuls autorisés en production de miel biologique. Mais qui sont un petit peu moins efficaces, mais ça marche aussi. Voilà. Donc, mais les traitements sont obligatoires. Donc, il y a un traitement et des suivis de l'infestation qui s'imposent.
Qui permettent quand même de freiner la...
Qui permettent en tout cas de gérer le problème et de
contenir.
Et de limiter la pression. On n'est jamais totalement à l'abri. On n'est jamais à zéro varroa. Ça n'existe pas. Les varroas sont toujours là. Mais on peut maîtriser la pression du varroa, c'est-à-dire limiter la population du parasite de manière à ce qu'elle ne détruise pas l'ensemble de la colonie.
Et les pesticides restent aussi encore une grosse menace
Alors,
pour les abeilles.
Donc je disais le varroa est le premier problème. En deuxième problème, en fait, je ne sais pas si je dois établir une échelle. Un autre problème, je dirais, c'est celui des pesticides, qui est aussi un problème très sérieux, lié à l'agriculture intensive. Mais on pourrait aussi évoquer la monoculture qui condamne les abeilles donc, à limiter leurs ressources.
Or, elles ont besoin d'une diversité.
Elles ont besoin, comme vous, comme tout le monde, d'une diversité au niveau des ressources, en protéines en particulier.
En Provence, on a la chance d'avoir quand même une diversité au niveau des fleurs qui permet quand même...
À condition que le désherbage ne soit pas trop prononcé. Et c'est aussi lié à la pratique de la monoculture et le désherbage qui va avec, qui condamne les abeilles à ne plus rien à avoir à leur disposition que une seule, voilà, une seule espèce. Et qui plus est, le plus souvent, sur laquelle s'appliquent de nombreux pesticides qui sont extrêmement toxiques pour l'abeille, même si les producteurs, enfin les entreprises qui mettent sur le marché ce genre de produits ne reconnaissent pas le problème. Le problème est réel et très grave.
Oui. Donc il est grave pour les abeilles, mais si on consomme le miel où il y a eu des pesticides sur les fleurs qui ont été butinées, est-ce qu'il y a un risque aussi ?
En principe, oui.
Normalement,
on
oui.
le retrouve. Et on oui. le retrouve, oui, bien entendu.
Donc c'est anodin pour personne.
Bien entendu, même si les abeilles sont, comment dire, au début de la chaîne, elles sont les premières touchées par le problème, oui.
Il y a d'autres parasites aussi. On avait parlé d'un certain frelon asiatique.
Alors, il y a
à un moment
aussi
donné.
Le frelon asiatique qui a fait sa apparition il n'y a pas très longtemps, il y a quelques petites années. Je ne le mets pas au même niveau de gravité que le varroa, dans la mesure où, oui, là où il s'implante, il est redoutable. Hein, lui aussi, il est responsable de la destruction de ruchers.
Il agit comment ?
Mais ça reste des, comment dire, des foyers, ça reste local, alors que le varroa est vraiment universel. Il ne D'accord. connaît pas de frontières. Le problème du frelon asiatique est un problème, mais qui suit la progression donc, et le déplacement de ce parasite.
Donc,
qui est aussi très dangereux.
On peut identifier là où il est.
Oui, alors il y a des moyens de surveillance oui, et de localisation. On suit sa progression. Oui.
D'accord. Oui. Donc, ce n'est pas la même menace quand même que le
varroa. C'est une menace importante là où il est, mais il n'est pas partout. Donc, c'est dans ce sens que je relativise son importance.
D'accord. Eh bien, écoutez, on vous remercie pour tous ces éléments. Et puis, pour ceux qui seraient curieux et qui aimeraient se lancer dans cette belle aventure de l'apiculture, donc vous avez un site. Donc, je rappelle que l'association, c'est l'Association Vauclusienne d'Apiculture, AVA, AVA. Donc, le site sur lequel on peut trouver tous les renseignements concernant vos activités,
Absolument,
et conférences et autres. Donc, c'est AVA, AVA, 84200.jimdo. .com.
Il faut préciser J-I-M comme Muriel, si l'on l'entend mal.
M comme Muriel. J-I-M-D-O.com. Voilà. Donc Antoine Assaf de la VA, on vous remercie.
Mais tout le plaisir est pour moi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
RTVFM, toujours une longueur d'avance.
Reconnais, j'ai déconné, t'as essuyé tes larmes et tu t'es envolé. J'y pense le soir en fermant les volets. Je t'imagine une dernière fois me pardonner. Je veux rentrer dans ta vie mais le code est erroné. Tu as tourné la page de moi, t'entends plus parler. Je vais de ville en ville, non pas pour me balader. Mais tu es ce diamant que j'aimerais dérober. Tu peux me fuir moi, oui tu peux t'éloigner. Tu peux m'esquiver, je viendrai te chercher. Jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Jusqu'à Porto Rico. Partout à croire que je suis parano. T'as changé de vie, t'as changé de numéro. Je t'imagine sourire dans les bras d'un autre. Ton parfum sur les drames ne cesse de me faire voyager. Autour de moi les gens disent que t'as déménagé. Et j'ai ouvert les yeux quand les tiens se sont fermés. À l'autre bout du monde je te retrouverai. Tu peux me fuir moi, oui tu peux t'éloigner. Tu peux m'esquiver, je viendrai te chercher. Jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Jusqu'à Porto Rico.
parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore, je suis parti te retrouver. Et tu m'en veux à mort, t'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore, je suis parti te retrouver. Jusqu'à Porto Rico, Porto Rico, je te suivrai jusqu'au bout du monde.
Préféré sur une seule radio,
RTVFM.
100% hit.
Get your money right, girl.
If you don't get-